rappeler ce que vous avez. J'ai trouvé que le point de nouveau était infiniment logique. Il n'y a rien de plus juste et de plus voué au succès qu'une très grande histoire d'amour entre un très laid et une trop belle.
On voit d'ailleurs dans les plus célèbres souvent. Je ne vais pas donner de nom, mais c'est vrai qu'on a effectivement souvent.
L'auteur dramatique qui était avec Marilyn Monroe, il n'était pas très beau.
Oui, par exemple, voilà. On va parler voilà. De l'art, comme ça, je ne
Et non, mais c'est. Et en même temps, c'est la réputation indécrottable de bêtises que ça tire les très beaux.
Gainsbourg.
Gainsbourg a eu les plus belles femmes, Catherine Deneuve, Jane Birkin, etc. Et la réputation indécrottable de bêtises que ça tient les très beaux procède exactement de la même injustice. Très bien, passe pour trop bête. Moi, je pense qu'elle n'est pas si bête que ça. Je pense que ce qu'elle dit est très intelligent. Mais que c'est inévitable que la personne trop belle soit vue comme trop bête. Là encore, je ne parle pas du tout d'expérience. Vous l'avez compris.
Vous évoquez justement... Il y a quelque chose qui a été beaucoup repris dans la presse et sur lequel j'avais envie de vous entendre. Vous évoquez comme intelligence suprême le sens de l'autre.
Oui.
Expliquez-nous ce concept-là.
C'est très important. On vit vraiment une époque horrible. Tout est devenu tellement normatif, y compris l'intelligence. Maintenant, l'intelligence se calcule. L'intelligence se calcule en termes de quotient intellectuel. C'est désespérant. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai rencontré beaucoup de gens qui avaient un quotient intellectuel démentiel. Est-ce que vous avez déjà essayé de parler avec ces gens-là? C'est des crétins absolus. Alors, à quoi bon avoir un quotient intellectuel de 180 si vous avez la conversation d'un chou-fleur? Ça prouve bien que cette intelligence-là n'a aucun intérêt. Je ne dis pas qu'elle n'est rien, mais je dis qu'en société, ça va... Même, enfin, vivre avec une personne comme ça, c'est pas très intéressant. On peut tout de suite vivre avec un ordinateur. Beaucoup de gens, d'ailleurs, ont fait ce choix. C'est beaucoup plus simple. Bref, il existe d'autres intelligences que l'intelligence du quotient intellectuel. Et je crois qu'on commence à peine à s'en rendre compte aujourd'hui. Et combien cette quantification de l'intelligence est stupide. Imaginez le nombre de gens qui ont été détruits par la quantification de leur quotient intellectuel. Soit que leur quotient intellectuel ait été perçu comme beaucoup trop élevé, soit qu'il ait été perçu comme complètement débile. Des gens qui auraient eu des vies très belles ont été détruits parce qu'on a calculé leur quotient intellectuel. Je prends le pari que la véritable intelligence est celle dont parle Charles Perrault. Charles Perrault parle de l'esprit. J'adore ça. Notion infiniment française. Je sais de quoi je parle, je ne suis pas française. Quand je suis arrivée dans votre beau pays, j'ai rencontré ce que c'était que les gens d'esprit. C'est merveilleux. Qu'est-ce que c'est que l'esprit? L'esprit, c'est l'intelligence qui rencontre l'autre. C'est l'intelligence qui sert à aimer les autres. On rencontre les gens et les étincelles. Ça, c'est l'intelligence qui me plaît. J'appelle ça le sens de l'autre parce que l'esprit, on ne sait plus trop ce que ça veut dire. Ça, on dirait un peu une notion de yoga maintenant. Voilà, donc l'intelligence qui m'intéresse, c'est le sens de l'autre. J'espère que j'ai cette intelligence. C'est cette intelligence qui permet de considérer chaque autre personne comme une langue étrangère. Ce qui est vrai, chaque autre personne est une langue étrangère. Et on est vraiment intelligent que si on comprend et si on essaye, chaque fois qu'on rencontre une nouvelle personne, de découvrir la langue qu'elle parle et de la parler.
Déouda. Pour être aujourd'hui considéré comme un surdoué, c'est un terme qui est assez à la mode. On perçoit vous aussi aujourd'hui comme une surdouée des lettres, la reine des lettres, c'est quelque chose qu'on entend régulièrement. J'aimerais savoir comment est-ce que vous le ressentez et est-ce que c'est quelque chose qui vous agace en fait ça?
Alors, je vais tout de suite m'abstraire de la conversation parce que peu importe ce que je suis dans cette histoire. Ce qui m'agace prodigieusement dans cette affaire, c'est qu'on vit vraiment l'époque de la victimisation absolue. Même si vous êtes trop intelligent, vous êtes encore une victime. C'est la mode aujourd'hui. Quel que soit votre statut, que vous soyez trop bête, trop laid, trop intelligent, trop gros, trop mince, trop n'importe quoi, De toute façon, vous serez une victime. Bienvenue au club, si on peut vous victimiser. Si on peut dire de vous que ce que vous vivez est abominable et que vous êtes très malheureux, bienvenue au club. J'ai horreur de ce principe. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, je vous rassure, il y a bien longtemps, j'ai 49 ans, donc je peux le dire, il y a bien longtemps, j'étais ce qu'on appelait une enfant surdouée. Je vous rassure, ça m'a complètement passé. Mais, Dieu merci, je vivais à une époque lointaine où on pouvait être vu comme surdoué sans être vu pour autant comme la victime absolue de la société. Je vous le dis sans embâche, mon enfance s'est très bien passée. Ça s'est gâté par la suite, mais pas à cause de ça. Franchement, c'est vrai, à l'école, c'était trop facile pour moi. Aujourd'hui, on est obligé de dire que pour tout enfant surdoué, c'est une tragédie. Le pauvre, comme il souffre à l'école, c'est horrible, le pauvre enfant. Moi, je vais vous le dire, à l'école, je m'amusais comme une folle. C'est vrai que c'était très facile pour moi. Eh bien, c'était très bien que ce soit très facile pour moi. Du coup, je faisais autre chose à l'école. C'était bien, c'était pas du tout horrible. Cessons de dire que tout destin particulier est un destin tragique. Nous sommes tous des destins particuliers. C'est pas parce que nous sommes différents des autres que c'est tragique. C'est simplement notre histoire. Faisons-en notre histoire. Cessons de persuader tout enfant différent ou tout adulte différent qu'il vit une tragédie. C'est pas vrai. Il vit simplement son histoire et c'est bien que ce soit la sienne. Et c'est bien que ce soit à lui de l'inventer. Donc je vous rassure, entre-temps, il s'est passé tellement de choses. J'ai bu tant de champagne entre-temps que mon cerveau s'est considérablement érodé. De toute façon, il ne saurait plus être question... Alors, j'ai entendu parler, vous savez, parler des néologismes abominables, on parle de la douance. Mon Dieu, c'était pas suffisant qu'on soit doué, on parle de la douance, mais quel mot horrible. Dieu merci.
Je ne connaissais pas, mais je trouve ça assez
mais la douance, mais c'est horrible. Donc, rassurez-vous, je suis sortie de la douance. On peut très bien s'en sortir. Et voilà, quel que soit le destin que vous ayez à vivre, sachez que ça va très bien se passer. C'est le fait d'être doué. C'est la tragédie qui consiste à être doué. Je pense que je m'en suis très bien sortie de la douance.
Alors je vais revenir au personnage de Déo Oda, qui est ornithologue. D'où vous vient cette passion pour les oiseaux? Alors je sais votre passion pour Vertigo d'Hitchcock. Je sais que vous aimez beaucoup ce livre. Le fait du champagne,
vous l'avez déjà brûlé.
Donc on sait votre passion pour Vertigo. Est-ce que des oiseaux ont joué ou c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond que ça?
C'est très profond. Déoda, c'est moi, vous l'avez compris. En même temps, mes obsessions ont toujours été d'une cohérence folle. Depuis ma naissance, je suis obsédée par les œufs. Et à partir de l'âge de 11 ans, en plus de mon obsession pour les œufs, il y a une obsession pour les oiseaux. C'est très cohérent. Je pense que vers 11 ans, l'œuf a commencé à éclore. Et en même temps, je n'ai aucune explication à vous apporter. Mais c'est vrai que c'est depuis l'âge de 11 ans que je prends l'habitude, quand la situation me lasse, de regarder vers le ciel. Et qu'est-ce qui se passe quand on regarde vers le ciel? Ben, on voit les habitants du ciel. Il y a quelqu'un dans le ciel. Inutile d'inventer les anges, il y a vraiment quelqu'un dans le ciel. Il y a les oiseaux, qui sont des êtres exceptionnels. C'est absolument fou de se dire que les dinosaures existent toujours. Les descendants des dinosaures, ce sont les oiseaux. On a toujours dit que les dinosaures se sont éteints. Ce n'est pas vrai. Les oiseaux, c'est des dinosaures. C'est simplement des dinosaures qui ont fait le choix de voler. Et nous aussi, on est des dinosaures. Mais nous, on est des dinosaures qui n'ont pas fait le choix de voler. Quelle idée.
Ils sont plus courageux que nous, finalement.
Mais ils sont tellement plus courageux que nous, parce que nous, on admire les pionniers de l'aviation. On a raison. Il fallait être très courageux pour être les pionniers de l'aviation. Mais au moins, les pionniers de l'aviation, ils étaient dans une machine. Les oiseaux, enfin les dinosaures qui ont choisi de voler, ils n'étaient pas dans une machine. Un jour, ils se sont dit, on va se jeter dans le ciel et on va voir ce qui se passe. Vous imaginez les dégâts. Vous imaginez les millénaires qu'il a fallu pour que ça donne quelque chose. Vous imaginez l'obstination qu'il a fallu pour que ça donne les magnifiques créatures qui volent. Ça me fascine. Ce n'est pas des blagues que je vous raconte. L'évolution, ça a supposé que pendant au moins un millénaire, des espèces se suicident au nom d'un, espèce, d'un idéal supérieur qui consistait à voler. Mon rêve récurrent, le rêve que je fais une fois par semaine, c'est que je vole. Et c'est toujours le même rêve, c'est que j'ai trouvé la technique pour voler, j'ai trouvé la gymnastique qui permettait de voler. Pendant tout mon rêve, je vole, je vois la Belgique, je vois Paris, je vois le Japon, c'est formidable. Et à chaque fois, je me dis, cette fois-ci, je me souviens de la gymnastique, cette fois-ci, quand je me réveillerai, je me souviendrai de la gymnastique et je m'envolerai. Et chaque fois que je me réveille, je me dis, ah, ça y est, cette fois-ci, je me souviens de la gymnastique. Puis je me réveille, je fais la gymnastique et ça marche pas. Mais en même temps, je perds pas espoir. Je me dis, si toute une génération, qu'est-ce que je raconte, si un millénaire de dinosaures a pu y croire jusqu'à ce que ça marche, je veux croire qu'avant ma mort, je volerai. Bon, Thierry, il faut vous y mettre parce qu'un jour, on fera une interview volante.
On va travailler ça pour l'année prochaine.
L'année prochaine, je ne sais pas, mais à vous.
Si partir en premier, je ne sais pas.
Bon, c'est moi, je suis vieille.
On a 4 ans de différence.
Oh, vous êtes très aimable.
Vous avez menti. Non ? J'ai 41, on m'a dit 44 pour vous.
Oh non, j'ai pas 44 ans, j'ai 49 ans. J'ai jamais dit que j'avais 44 ans. J'ai dit ça il y a 5 ans. J'adorerais mentir sur mon âge.
Wikipédia ment, sachez-le. Voilà.
Ça, je le sais. Mais c'est pas pour rien que je vais jamais sur Internet. Sur Internet, on apprend les pires bêtises. Ça n'a pas beaucoup
d'importance. Félicitations.
Merci.
Pour revenir aux oiseaux, justement, la langue française est très ingrate avec les oiseaux.
C'est-à-dire
qu'on parle de tête de linotte, de dinde, de grue. On ne leur rend pas hommage, finalement.
Vous savez que c'est vraiment une particularité de la langue française. L'anglais n'est pas très flatteur pour les oiseaux, mais est quand même moins grave. Mais ce sont les deux seules langues qui sont à ce point vaches pour les oiseaux. Mais aucune n'arrive à la cheville de la langue française, qui vraiment est insultante pour les... Merci Thierry, vous savez à qui vous avez affaire. Aucune langue n'est aussi insultante pour les oiseaux que le français. Et j'explique ça psychologiquement. Je suis en train de découvrir votre peuple, les Français. Je vous adore, bien sûr. Tous, ma vie amoureuse se passe en France, ma vie professionnelle se passe en France. Je vous aime. Mais... Pour autant que je vous comprenne, les Français ont un rapport très spécial à la jalousie. C'est un petit peu le peuple jaloux par excellence. Regardez Louis XIV, l'un des plus grands rois de France, a été capable de détruire totalement quelqu'un qui était son vassal au nom de la jalousie. Je ne connais aucun peuple qui soit allé aussi loin dans la tragédie de la jalousie que le peuple français. C'est comme ça que j'interprète l'incroyable vacherie de la langue française vis-à-vis des oiseaux. Canard, grue, tout ça, c'est des insultes. Tout ça pour des oiseaux magnifiques, d'une noblesse infinie et que les autres langues honorent. Je pense que c'est parce que, et je comprends très bien les Français, moi aussi je suis jalouse des oiseaux. J'aurais mille fois préféré être un canard ou une grue qu'un écrivain belge d'expression française interviewé à 16 mois. Mais...
Il y a pire comme traitement.
Je suis d'accord. Surtout quand vous me passerez de champagne. Mais c'est vrai que depuis, je crois que la tragédie, une des tragédies fondatrices de notre civilisation française, c'est Louis XIV et Fouquet. Fouquet invitant Louis XIV dans son château à Vaux-le-Vicomte et lui montrant ses merveilles, et Louis XIV réagissant en emprisonnant Fouquet, en le mettant à mort parce qu'il ne supportait pas que quelqu'un soit allé plus loin que lui, plus haut que lui dans la magnificence. C'est quoi votre problème, vous Français, avec ce qui est plus beau que vous? Voilà une question à laquelle je ne peux en aucun cas répondre, je suis belge, donc je ne comprends pas. Mais je pense que c'est pour ça que vous, Français, avez tellement condamné, tellement ridiculisé les oiseaux dans votre belle langue, qui est aussi la nôtre, enfin, celle de la moitié de mon pays.
Regardez pas comme ça en disant ça, je vais culpabiliser.
Mais je commence à peine mon étude, hein, parce que je suis, pour ne rien vous cacher, je suis en train d'écrire sur la jalousie, parce que c'est quelque chose de fascinant. Tous les peuples de la Terre ne sont pas jaloux. C'est quoi la jalousie? C'est quoi cette façon de se pourrir la vie parce qu'on ne supporte pas que quelqu'un soit plus beau que soi? Moi, je supporte très bien qu'on soit plus beau que moi. C'est un truc français.
Alors, vous avez intégré l'Académie royale de Belgique.
Je suis une immortelle belge.
Alors, on parle de, du roman Ricalao, et je vous engage vraiment à lire ça. C'est donc le discours de réception d'Amin Newton à l'Académie royale de Belgique, accueilli par Jacques de Becker. Moi, j'ai adoré.
C'est extraordinaire.
C'est-à-dire que j'ai adoré le discours que Jacques a fait sur vous, et j'ai adoré le discours que vous avez fait vous. Ça se lit en 20 minutes, hein. C'est un petit truc, mais c'est vraiment juste une perle. Donc je vous engage vraiment à lire.
Mais c'est là qu'on voit toute la différence qu'il y a entre l'Académie française, votre glorieuse Académie française, et l'Académie royale de Belgique. Bah, chez nous, c'est un peu sympa.
Mais j'ai trouvé ça très sympa. Je me permets de lire un extrait du discours de Jacques de Becker. De Necker, pardon, j'ai écorché son nom. Donc en parlant de vous, il dit « Vous êtes aussi l'auteur par lesquels les plus jeunes aujourd'hui abordent le plus fréquemment la littérature au plein sens du terme. Cette double face tient à votre élégance naturelle d'un côté et à votre style fifi brin d'acier de l'autre, marginale, décalée, déboulonneuse, résolue de certitude, humoriste de haut vol, mélange de clown blanc et d'Augustine, un prénom en A que je vous suggère, illustratrice par excellence de cette politesse du désespoir qui fait de la drôlerie un exercice spirituel dans tous les sens de l'adjectif. »
Merci Thierry.
Et c'est vraiment, je trouve qu'il vous décrit merveilleusement bien. Il vous connaît vraiment bien. Et qu'est-ce qu'on ressent alors qu'on intègre cette Académie royale de Belgique?
C'est exceptionnel. Bon, pour devenir académicien français, vous devez faire une campagne électorale. Vous devez séduire les académiciens. Vous devez annoncer votre candidature. Vous devez leur faire la cour. C'est terrible. Pour devenir académicienne belge, ça n'a rien à voir. Vous ne savez même pas que vous êtes candidate. Et un jour, vous recevez un coup de téléphone en disant « Amélie, t'es à l'académie. Comment, mais quoi, quelle académie, de quoi parle-t-on ?» Ben voilà, tu fais partie de l'Académie royale de Belgique. C'est comme ça, c'est aussi simple que ça. Nous sommes 40, comme vous, 40 académiciens. Et c'est tout aussi important, puisque nous défendons au même niveau, enfin, avec beaucoup moins de démographie, nous défendons la langue française. C'est très impressionnant, parce que cette académie a abrité des gens illustres, et pas uniquement des Belges. À l'Académie royale de Belgique, nous avons eu Jean Cocteau, nous avons eu Colette. Quelle fierté! Donc, se dire qu'on succède à des gens comme Jean Cocteau, comme Jean Colette, comme Colette qui était un écrivain à venir, mais aussi comme d'illustres Belges, comme. Moi, je suis au même fauteuil que Georges Simenon. Qui a succédé à Simenon? C'était Simon Leys. Et puis moi, je vous assure que j'ai pas du tout les épaules taillées pour le rôle. Si vous succédez à Simon Leys et qui lui-même succédait à Simenon, c'est comme succéder à Agatha Christie qui succédait à. Qui a fait encore Sherlock Holmes Conan Doyle. Voilà, ça me donne la même impression. Donc vous imaginez dans quel état je suis. C'est un honneur considérable, donc demain soir j'y suis. Demain soir, je prononce un discours à l'Académie royale de Belgique pour défendre Boris Grevys, le père de la grande grammaire de tous les temps. Le bon usage. La grande grammaire de tous les temps était belge. Voilà, excusez-moi les nationalistes, mais nous sommes un peuple de grands grammairiens. Voilà.
Et alors, ça va être ma dernière question. J'ai préparé une liste de 4 noms, pas choisis par hasard, où je voulais avoir votre avis sur les noms que j'allais vous donner.
Brie Van de Kamp dans Desperate Housewives.
Elle me fait tellement rire. Elle est tellement belle. Elle est tellement folle. Elle est tellement étrange. Normalement, j'aime pas les gens psychorigides. Mais elle, elle a une façon d'être psychorigide qui est absolument délicieuse.
Alors, je me suis fait une réflexion. J'ai regardé ce matin le thé au café que vous avez fait il n'y a pas très longtemps, où on avait invité vos neveux.
Mon Dieu, oui. Et depuis, tout le monde sait que je me sers d'une tapette à mouche.
Voilà. Le secret est sorti.
Le secret de la tapette à mouche est sorti.
Et alors, quelque chose qu'on ne vous a peut-être pas encore dit, que je vais peut-être être le premier à vous dire ce soir, c'est que je suis de très longtemps le fils dans la série de Brie, qui est. Le nom de l'acteur s'appelle Chantal Fromm, qui a pris quelques années.
Le fils de Brie.
Le fils de Brie.
Qu'est-ce qu'il est devenu, celui-là?
Ah, ce garçon est devenu un artiste d'art contemporain.
Mais enfin, dans le feuilleton, il est tout petit.
C'est très intéressant, je vous enverrai son travail, c'est très intéressant. Mais ce qui m'a vachement surpris, c'est que je venais de lire ça, et que j'ai vu Sébastien, donc un de vos neveux. C'est son sosie,
mais
c'est incroyable. Avec alors, Chantal Fromm a pris quelques années,
oui.
Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, quand on compare à votre neveu Sébastien, c'est incroyable la ressemblance.
C'est dingue.
Je vous enverrai tout ça.
Sébastien,
vous regarderez.
Je peux vous le dire, c'est mon neveu préféré.
Alors, dans tout le café, ils vous ont demandé de dire lequel était le préféré,
vous
n'avez
pas osé répondre. Vous avez la réponse, Sébastien est mon neveu préféré.
C'est plus mignon aussi pour moi. Et je m'arrêterai là. Arnold Schwarzenegger.
Oh. Non mais écoutez, je ne sais même pas si les plus jeunes savent encore qui est
Terminator.
Écoutez, les gens n'imaginent pas ça, mais moi je vous jure que je n'ai loupé aucun film avec Arnold Schwarzenegger. Ils sont tous mourir de rire.
Même les plus mauvais.
Même les plus mauvais. Alors, je me souviens d'un film où Arnold Schwarzenegger, très mauvais, il saute en parachute et il voit un Boeing et il dit « Suivez cet avion !» Et là, il le suit. C'est ça qui est dingue. Puis, oh non, c'est extraordinaire. Puis il y a le film où Arnold Schwarzenegger tombe enceinte. Extraordinaire. Extraordinaire. Franchement, quel personnage incroyable.
Rihanna.
Rihanna. Mais c'est très beau ce qu'elle chante, Rihanna. Elle a une voix d'une sensualité infinie pour danser, rien de tel que Diamonds de Rihanna. Moi j'adore. Je sais qu'il paraît que ça fait pas très distingué, mais j'adore.
Et dernier, ce sera Jésus.
Oui, bah là, écoutez, bon, c'est un peu plus ancien, mais. Quel type quand même. Jésus et moi, c'est une longue histoire.
Quel type.
Je vous explique. Je viens de la famille la plus catholique de Belgique. C'est lourd à porter. Donc, dans la famille où je viens, vous devinez tout à fait le genre de catholicisme, le genre de mentalité, le genre de tout. Quand j'ai rencontré ma famille à l'âge de 17 ans, je suis tombée nue. Pas seulement parce qu'ils étaient pas du tout comme moi et qu'ils étaient absolument abominables et effrayants, mais aussi parce que Jésus, mon héros, moi j'ai toujours trouvé que Jésus était un type formidable, n'était pas du tout interprété par eux comme il était interprété par moi. Pour moi, Jésus, c'est un type incroyable. C'est le type qui défend la femme adultère. Merci Thierry. C'est aussi le type qui me remplit mon verre de champagne. Ce qui me fascine le plus chez Jésus, c'est voilà un mec qui a du style. Quel style ! Les pharisiens viennent le pousser dans ses derniers retranchements, lui poser des questions qui, théologiquement, sont impossibles à répondre en tant que fils de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait ? Il se tait longuement et dessine des signes kabbalistiques dans le sable avec son pied. Quelle classe ! Il a des réponses byzantines, mais très savamment byzantines, pleines de sens. Jésus, c'est aussi le héros des noces de Cana. Les noces de Cana, c'est évidemment le passage de la Bible que je préfère. On comprend bien pourquoi. On apporte à Jésus, Jésus est présent à une noce, on lui apporte des jarres d'eau en lui disant « Le vin vient à manquer !» Jésus fait quelque chose. Et Jésus fait quelque chose. Et tout de suite, l'eau se transforme en un vin infiniment meilleur que tous les vins qui étaient présents à la noce. Et comme quoi les gens ne sont jamais contents, au lieu de dire merci Jésus, les gens viennent lui dire mais ça va pas non de faire du vin tellement meilleur que l'autre vin pour la fin de la réception, tu sais bien qu'on est tous torchés et qu'à la fin de la réception, on ne peut même plus apprécier un vin pareil. C'est tellement significatif de l'espèce humaine. On ne dit jamais merci. Voilà, Jésus leur fait le meilleur vin et ils viennent encore l'insulter. Eh bien, je vais vous dire une chose. J'ai fait l'expérience de Jésus. Pas du tout que j'ai essayé de transformer de l'homme. Enfin, si, bien sûr, j'ai essayé, mais ça n'a pas marché du tout. Mais j'ai fait l'expérience qui consiste à boire le meilleur champagne en fin de dégustation. Parce que mon enseignement, ma morale de l'histoire, c'est que Jésus avait raison jusqu'au bout. À savoir que les hommes qui sont venus lui dire « Pourquoi gardes-tu le meilleur vin pour la fin ?» étaient des hommes qui n'y connaissaient rien. Et que Jésus nous proposait une expérience d'œnologie exceptionnelle. À savoir que c'est quand on est ivre-mort qu'il faut boire le meilleur vin, parce que c'est fou l'effet que ça fait. Eh bien, j'ai essayé ça avec le champagne, bien sûr, mais le champagne est un vin, donc c'est une expérience scientifiquement rigoureuse. J'ai fait des séances de dégustation où j'arrivais déjà complètement ivre-morte à la fin de la dégustation, et j'attendais qu'on m'apporte à la fin de la dégustation les vins, les champagnes, les meilleurs. Rien de tel que d'être déjà très ivre pour boire les meilleurs champagnes. Jésus avait raison. Donc, ceci est la réponse à votre question. Quel type, ce Jésus ?
À Jésus. On va terminer cette conférence. Alors, j'espère que vous avez le droit de me reprendre sur l'accent.